jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Émission On en jase à Boulevard 102.1. C'est le retour de Gravel qui va suivre de 14h à 18h et c'est le retour aux alentours de 17h de Québec-Montréal, la chronique Québec-Montréal, Richard Martineau, Denis Gravel avec Véro et Audrey. Donc, soyez à l'écoute, ça va être très, très, très plaisant. Moins 1 degré averse de neige pour aujourd'hui. Il y a des flocons qui sont tombés déjà, donc peut-être qu'il y en aura d'autres. Demain, 1 degré généralement nuageux et moins 1 avec de la neige pour dimanche. Pascal, notre prochain invité, c'est la première fois que je vais lui parler, mais je le vois passer sur les médias sociaux. Oui. Parce que oui, c'est un enseignant, mais c'est un créateur de contenu puis un vulgarisateur en éducation. C'est un beau cadeau que tu me fais. J'ai vraiment hâte de parler avec Sylvain Duclos.
C'est un genre de Farnell, mais pour l'éducation. Puis oui, je les compare pas dans le sens où l'un et l'autre, mais dans ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, puis pour nous alimenter aussi, puis nous faire comprendre des situations. Ça fait quelques fois que je le prends en onde et que je le book parce qu'il est excellent vulgarisateur, mais il a aussi les deux pieds dedans.
Ah, vraiment! Et on s'en va immédiatement le rejoindre au bout du fil. Sylvain Duclos, comment vas-tu?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Good, c'est un bonheur de te parler, Sylvain. Merci de t'être rendu disponible pour l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Sylvain, on a renforcé la loi sur la laïcité hier du côté du ministre Jean-François Roberge. Et là, ça fait ressortir dans l'actualité le dossier de Bedford. Est-ce que tu es comme la très grande majorité des citoyens que tu trouves que ça prend du temps, cette enquête-là?
Ça prend du temps, l'enquête. Puis ça a pris du temps avant que l'enquête soit déclenchée, puis qu'il y a des choses qui se passent. C'est une histoire qui est interminable. Puis je pense qu'il faut se questionner sur nos processus au Québec pour protéger nos élèves en éducation en général, parce que c'est pas normal qu'ils soient aussi longs. Bien entendu, faut prendre le temps de faire l'enquête correctement, puis s'assurer qu'il n'y ait pas des personnes qui soient accusées à tort. Mais en même temps, un an, c'est long.
En effet, c'est très long. La ministre Lebel, hier, sur les ondes du 99.5 Montréal avec Isabelle Maréchal, a mentionné qu'on allait y arriver dans quelques semaines. Jusqu'à présent, c'était une recommandation. Elle n'a pas voulu dire le nombre d'enseignants que c'était la recommandation, mais de retirer les brevets d'enseignants pour ceux que l'enquête était terminée. T'attends-tu à voir les 11 enseignants se faire retirer leurs brevets d'enseignement?
Mais on connaît pas les détails pour tous les dossiers individuels. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit les 11? Je suis pas certain, puis je pense que ce serait un petit peu prématuré de le dire. Je pense que la ministre a dit que c'était la majorité des enseignants qui verraient leur brevet retiré. Mais la totalité, je pense qu'il y a peut-être des nuances, des gens qui étaient un petit peu moins impliqués que d'autres. Donc, on verra ce qui va en sortir.
C'est particulier comme affaire, par contre. Hein? C'est quelque chose qui se trame depuis 2016. Tu le dis, effectivement, tout a été long. Le fait de prendre compte, acte de la situation. Mais c'était dans une école primaire. Et là, on se rend compte que c'est d'un laxisme exceptionnel. On se renvoie la balle. On est en enquête pendant plusieurs temps. Est-ce qu'on est assez protecteur de nos écoles, de nos jeunes?
Bien, je pense qu'il nous manque des mécanismes sont plus efficaces, parce que dans cette histoire-là en particulier, il a fallu au final que ça sorte dans les médias pour que le politique s'en mêle, alors qu'on sait, après coup, là, dans les premiers rapports qui sont sortis, que la direction avait avisé le centre de service scolaire, qu'elle avait demandé de l'aide, puis que la situation, elle avait perduré. Donc, il y a des mécanismes à ce moment-là qui n'ont pas été mis en place, qui n'ont pas été suivis. Puis, bizarrement, on questionne très peu la réponse du centre de service scolaire dans cette histoire-là. C'est comme passé sous le tapis, mais moi, ça me questionne beaucoup.
Pendant plus de 7, qu'on dit, pénibles années, il y a un groupe d'enseignants qu'on nomme archaïque et qui était défendu par le syndicat et qui prenait le leadership pédagogique de l'école, qui ont un peu régné comme ils voulaient. Donc, pas de mécanisme efficace d'évaluation de la compétence des enseignants en cours d'emploi, perdu de vue la situation de l'école Bedford au cours des années, puis aussi disposer d'une faible capacité à effectuer des suivis. Pourtant, effectivement, normalement, ce qu'on a fait avec les écoles primaires puis avec les services scolaires, c'est d'essayer d'arrimer le tout puis de faire en sorte qu'il y ait comme un genre de réglementation uniforme ou assez uniforme. Est-ce que Bedford est unique ou on peut prétendre qu'ailleurs ça peut se passer comme ça si on voit à quel point c'est malmené?
Je pense pas que on peut difficilement déterminer si c'est des situations d'ordre, on va dire, religieuses ou culturelles comme celle de Bedford.
Ouais.
C'est certain qu'il y a des situations sont problématiques dans d'autres écoles au Québec, primaires ou secondaires, où il y a de mauvais climats. Moi, j'ai des enseignants puis des membres du personnel qui m'écrivent de façon régulière pour me dire « Ah, dans mon centre de service scolaire, c'est difficile, il y a peu de respect, il y a des situations avec des collègues. » Il y en a qui existent un peu partout, comme dans tous les milieux de travail, hein. Puis souvent, les écoles, c'est des petits milieux qui sont isolés, c'est des petites communautés. Donc, ça prend vraiment une certaine diligence des centres de services scolaires pour s'assurer justement que le climat de travail soit harmonieux. Quand tu as 3, 4, 8 directions qui passent dans une école en quelques années, il faut peut-être se poser des questions, là.
Sylvain, évidemment, ce qui était reproché à Bedford, c'était de faire de l'enseignement en fonction de la religion. Est-ce que tu crois qu'avec le projet de loi sur la laïcité présenté hier par Jean-François Roberge, où on va arrêter le financement des écoles qui sélectionnent leurs enfants selon la foi, ça va venir faire en sorte qu'on risque moins de frapper des cas comme Bedford?
Est-ce que ça risque d'aider? Je pense que oui. Cependant, il y a quand même des choses qui risquent de se faire par en dessous. C'est certain qu'on a décidé au Québec d'avoir une société qui était laïque, donc la religion devrait sortir des écoles. Ne pas sélectionner les jeunes en fonction de leur croyance religieuse, je suis amplement d'accord. Je ne comprends pas qu'en 2026 au Québec, on finance encore des écoles religieuses, alors que toute la société laïque.
Je suis tellement d'accord avec toi, Sylvain. Pour moi, quand le ministre Roberge a présenté ça hier, j'ai dit « Hein, ça existe encore? » J'étais complètement sous le choc de savoir que ces écoles-là voyaient encore le jour.
Je me demande une question un peu particulière, mais tu sais, si on enlève, si on sanctionne ces enseignants-là, qui sont au compte de 11 et dont on dit qu'il y a une partie qui risque de perdre leur brevet d'enseignement, brevet qui serait, totalement maintenant enlevé de leur parcours professionnel, avec la pénurie d'enseignants que l'on voit dans les écoles depuis des années. Il y en a plein d'enseignants qui n'ont pas de brevet d'enseignement et qui sont dans les classes. Est-ce qu'on pourrait les voir retourner en classe à un moment?
Ben, ça, c'est ce qui m'a fait rire jaune cette semaine, à savoir qu'avoir un brevet, c'est putain essentiel pour pouvoir enseigner de nos jours au Québec. Cependant, il y a des tolérances pour pouvoir avoir le droit d'enseigner. Donc, je présume que ces enseignants-là vont avoir une note quelque part pour ne pas les réengager ailleurs pour enseigner. J'espère. Mais des fois, je perds un petit peu confiance dans notre bureaucratie, malheureusement. Donc, voilà.
Ça m'amène justement, Sylvain, à te parler en général dans les écoles, comment ça va, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus d'enseignants non qualifiés. Tu le dis, il y a énormément d'enseignants qui te font confiance, qui te parlent, qui t'écrivent. C'est quoi le climat que tu sens à l'heure actuelle dans le milieu de l'éducation?
Je vous dirais que c'est une grosse année en général. On est parti sur les chapeaux de roue, un peu tout croche. On a toujours la situation de la pénurie qui est difficile parce que des gens non légalement qualifiés, on est là pour les épauler, pour les aider à aider les élèves. C'est pas toujours facile. Souvent, on travaille en double puis en triple. Mais les coupures budgétaires qui avaient été faites ont fait qu'on est parti cette année dans plusieurs écoles avec des groupes plus pleins qu'à l'habitude. Donc, on a pacté les groupes au bouchon parce qu'on savait qu'on manquerait de personnel ou on manque d'éducateurs spécialisés, etc. Il y en a qui ont quitté le réseau. Puis, on est parti un peu croche. Moi, les enseignants, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ont l'impression d'être 2 puis 3 mois en avance sur leur année scolaire. Puis là, en ce moment, ils ont vraiment hâte aux fêtes parce qu'ils sont vraiment, vraiment fatigués.
Et la pénurie, justement, du personnel de soutien, ça doit avoir une incidence énorme sur l'énergie puis le moral des troupes?
Oui, ça a une incidence parce qu'au final, il y a des choses qui doivent être réglés avec le support des TES, des psycho-éducateurs, etc. Puis quand on n'en a pas, ben c'est des situations qui perdurent et qui viennent avoir de l'impact dans les classes. Puis on sait que la gestion de classe, c'est de plus en plus difficile dans nos écoles. Donc oui, ça a un impact pour le personnel, mais aussi pour les élèves. Les jeunes qui vivent des situations où est-ce qu'ils n'ont pas les services, puis où est-ce qu'ils peuvent se décourager, puis peut-être qu'ils vont devoir reprendre des années parce qu'ils n'ont pas les services nécessaires.
Sylvain Duclos est enseignant, créateur de contenu et vulgarisateur en éducation. Sylvain, je continue à te suivre sur tes médias sociaux. Merci d'avoir participé à notre émission et au plaisir de se reparler prochainement parce que l'éducation, c'est une priorité pour nous à Boulevard 102, même si ça ne paraît pas toujours pour le gouvernement.
Merci à vous et bonne journée.
Salut Sylvain, salut. Merci beaucoup. C'était Sylvain Duclos, donc excellent enseignant et excellent vulgarisateur en éducation. On vient de passer les trois vulgarisateurs, Lambert, Farnel, hey! Sylvain.
Mais moi, c'est ma crainte hein, en enseignement parce que justement, pénurie de main-d'œuvre, qu'on revoit des gens qui n'ont plus de brevet pour une raison adéquate, hein, raison adéquate pour laquelle on a enlevé ce brevet-là. Je dis pas qu'ils sont plus capables d'être pédagogiques, plus capables d'être, d'être enseignants, mais clairement, ils ont dépassé des limites ouais. importantes pour être sanctionnés. Donc, honnêtement, je préfère Gérard qui a étudié la chimie, qui est chimiste et qui s'en va avec un peu moins de pédagogie dans les classes oui. que certains qui auraient dépassé, par exemple, les fameuses...
Clairement. Puis honnêtement, moi, t'es pour avoir vécu ça, mes garçons qui ont des enseignants qui ne sont pas qualifiés, autrement dit, sont quand même bien accompagnés par leurs collègues oui. et ça se passe bien dans les classes. Donc, mais c'est sûr que ce qu'on veut, et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a une augmentation des gens qui s'inscrivent dans les différents bacs en enseignement. Mm-hmm. Ce qu'on veut avant tout, c'est avoir des écoles remplies d'enseignants qui ont leur brevet d'enseignement, on s'entend.
Première chose, il faut revaloriser la profession et pour ça, ben, faut penser à leurs conditions, il faut penser à des classes dans lesquelles les jeunes peuvent apprendre
oui.
selon leur parcours. T'sais, on a voulu bien faire en étant inclusif puis en mettant plein de jeunes qui ont des besoins différents dans les mêmes classes qui étaient surpeuplées, mais sans aide externe. À la base, cette décision-là était prise avec le fait qu'on allait avoir des aides qui allaient venir en classe. Ouais. Il n'y en a pas assez. C'est pas réalisable.
C'est tellement un bon point. Je parlais avec une enseignante l'autre jour et dans sa classe, elle a 10 plans d'intervention. Donc, elle a 10 façons différentes. Puis là, je dirais 11, parce que supposons pour les 10 autres élèves, il y a une façon, puis là, après ça, on en a 10 individuels oui. d'intervenir en enseignement. Est mélangée, est brûlée.
Puis pendant ce temps-là, elle
est toujours
doit enseigner.
Ses talons. Pendant ce temps-là, elle doit enseigner, donc c'est vraiment pas facile. Et là, évidemment, bien, avec les coupures du ministre Drainville, bien, les 2-3 personnels de soutien qu'elle était censée avoir, bien, elle en a eu. Fait que lui, cette personnel-là aussi est débordé, alors ça crée une mixité dans la classe très difficile.
Deux situations très claires quand on parle de plan d'intervention. Okay? Toi, tu dis qu'elle en avait 10 différents. Moi, je t'en ouais. donne deux que j'ai eu comme exemple clair et net, précis dans les dernières semaines, derniers mois. Un enfant qui ne parle pas français du tout. Un immigrant qui est arrivé, c'est un enfant immigrant avec sa famille, qui n'a aucune compétence en français, qui est laissé pour compte dans la classe dans le sens où il s'est fait dire, ben c'est ça ta classe, ouais. c'est là ta classe et tu commences maintenant.
Coupure en francisation.
Et qui n'a aucune façon de communiquer avec l'enseignante, parce qu'on ne parle pas d'anglais pour sa première langue, et qui n'a aucune façon avec laquelle il peut comprendre ce qu'on lui a enseigné en ce moment. Fait que l'enfant est juste perdu dans la classe et il doit attendre que le temps passe parce qu'il n'y a personne, effectivement, pour l'aider avec la francisation. Puis certainement, il a été mis dans une classe où il ne peut pas être à ce moment-là. Mais l'enseignante a tellement d'empathie, de compassion, ça lui fait de la peine à chaque jour parce que l'enfant pleure aussi. Il se demande qu'est-ce qu'il fait là. Il ne comprend rien, c'est difficile. Puis il va être noté en conséquence. Ouais, imaginez, être obligé de lui faire des notes.
C'est ça.
Puis l'autre affaire, c'est un enfant qui a un problème de comportement, donc comportemental, qui se fâche. Quand il se fâche, ça peut prendre 30 à 45 minutes, ramener l'enfant. Imagine sur une période de 30, 45 minutes. Si l'enfant entre désorganisé dans le cours, dans la période, l'enseignante n'a pas le choix d'aller s'occuper de cet enfant-là. Pendant ce temps-là, l'enfant qui ne comprend rien en français est toujours dans la classe.
C'est ça.
Il y a peut-être d'autres plans, d'intervention ou des jeunes à besoins particuliers dans sa classe aussi. Mais elle doit se concentrer sur l'enfant qui est en train de péter une coche. Parce qu'il est en train de démolir ce qu'il y a autour de lui.
Oui, mais c'est ça que j'allais dire. Il peut tirer les objets, il peut renverser le pépite, il peut faire plein d'affaires.
Juste en étant désorganisé, les émotions qu'il ne contrôle pas. Donc, peut-être faut sortir l'enfant, faut le calmer et tout ça. Pendant ce temps-là, la classe, il se passe quoi? Elle est laissée à elle-même. Mm-hmm. Et personne n'apprend avec un cheminement. Les enseignants, dans les revendications lors de tout ce qu'il y a eu comme grève enseignante, là, il y avait des choses qui étaient tellement importantes pour lesquelles ils n'ont pas le droit de se prononcer parce qu'ils ont un besoin et un devoir de discrétion demandé par la direction puis surtout la commission scolaire et donc le ministère de l'Éducation.
Ils se sont fait carrément avoir par leur syndicat et le gouvernement qui, au lieu de régler, et leur point premier pourquoi ils ont fait la grève, c'est ce qui se passait dans la classe.
Oui.
Plus capable de gérer la classe. Au lieu de régler ça, on leur a donné des augmentations de salaire, mais on n'a rien réglé
non.
de ce qu'il y a dans la classe. Fait quand même qu'ils gagnent 10-12 000 de plus par année, ils quittent quand même la profession. Elles quittent parce qu'il y a en majorité des enseignantes. Parce que c'est juste rendu trop difficile. Et je les comprends là, que c'est rendu difficile. Là. On le voit, on le sent, on le voit que pour elles, c'est très, 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 très pénible mm-hmm. présentement d'être motivées, de réussir à enseigner.
Parce qu'ils ont l'impression de même pas pouvoir travailler pour le pourquoi ils ont étudié. Puis tu sais, il y a des gens qui nous écrivent puis ils ont dit « Ah, moi, mes enfants ont voulu être enseignants, ça n'a pas fonctionné, les notes et tout ça. » Il y a plein de discours qui sont différents puis de témoignages. Merci au 88-971-1021. Oui. Mais quand tu arrives dans une classe, tu es épuisé puis tu te rends compte que tu as un enfant qui pleure parce qu'il se sent seul à chaque jour. Tu as des enfants en détresse dans ta classe, tu as l'impression d'être même pas qualifié pour gérer une désorganisation d'un trouble comportemental. Puis en plus, ben, tu vois tes autres élèves qui ne demandent qu'à apprendre, pour lesquels tu n'es pas capable mm-hmm. d'établir un plan scolaire puis de le suivre pour ta journée. Tu dois revenir à la maison en te sentant, un, inefficace, deux, pire ou pire enseignante au monde, puis trois, à mauvaise place parce que ta santé oui. mentale en paie le prix.
Clairement, puis ces gens-là ont étudié justement en enseignement. Donc, leur but premier, c'est d'être capable de transmettre des connaissances. Fait que quand tu arrives à la fin de la journée, tu dis « Ouais, j'ai pas transmis les connaissances que j'aurais dû transmettre parce que j'ai géré petit Louis-là, petit Luc-là, petit Jean-là », ben tu sais, ça fait en sorte que tu n'es plus motivé à ta tâche.
Puis le nombre d'enfants en classe aussi, là, on est en train de construire des genres de j'appelle ça des cabanons, là.
Ouais.
Mais pour certains, sont vraiment impressionnants, sont vraiment, vraiment bien faits. Mais pourquoi on n'a pas vu ce boom démographique-là d'enfants dans nos écoles quand on a des statistiques sur l'immigration puis le nombre d'enfants qui naissent puis qu'on sait qu'en telle année, ils auront l'âge ouais. de la maternelle? Puis on n'a pas été capable de voir ça venir.
Hey, ça, là, moi, j'en dis toujours la même chose. Quand Elliot est rentré en maternelle, il était 8 classes de maternelle. Il transformait une école qui était secondaire 1, secondaire 2 en école primaire. Alors, je connaissais le directeur. Je vais voir le directeur puis je dis « Hey, M. Carl, j'imagine que le centre de services scolaires travaille déjà à construire une nouvelle école secondaire parce que là, tu sais, tout ce monde-là rentre au primaire. » Puis là, il dit « Non, il ne pas encore d'un carton. » Ben, je dis « OK, ils ont 6 ans pour le faire. » Ben, sais-tu, ils l'ont fait après combien de temps? Ils l'ont fait après 11. Elliot a eu le temps de finir son secondaire. Pendant ce temps-là, ben, Elliot et Edouard ont eu des cours dans les modulaires. Fait que c'est fâchant hein, quand tu vois ça. Tu dis, voyons, comment ça, moi, simple citoyen, je rentre dans cette école-là, puis je me dis, hey, il va falloir qu'on soit une école secondaire. Hein?
Puis tu sais, souvent, le patchage, là, le colmatage de fuite, là, quand on parle des modulaires, là, les cabanons, ce que vous voulez.
Exactement.
Ça, là, ça coûte de l'argent.
Ben oui.
Puis c'est parce que tu n'as pas le choix de prendre cette solution-là immédiatement. Moins long à construire, plus facile, modulable, mm-hmm. justement, sur un terrain d'école déjà existant. Sauf que le coût que ça a de patcher versus prévenir, travailler en amont. D'après moi, si on se mettait à surveiller puis on avait ces coûts-là devant nous, ça coûtait beaucoup plus cher.
Clairement.
De faire du colmatage, du patchage.
Puis c'est-tu la meilleure là-dedans? C'est qu'ils ont construit une nouvelle école secondaire. Puis l'année d'après, ils ont mis des modulaires dans le cours parce qu'ils l'ont pas construit assez grande. Ils ont enlevé les modulaires à la poly de Charlebourg parce qu'il y avait cette nouvelle école-là. Fait qu'ils ont retiré des modulaires pour en remettre l'année d'après. Quand on dit que c'est de la mauvaise gestion, c'est très décourageant. Bon, encourage-nous. As-tu des bonnes nouvelles?
Non, dans les nouvelles.
Ouais.
Ah, ben, OK, je vais t'en. Regarde, je vais commencer
parce
avec
ça. Parce que me semble que le maire Marchand va c'est nous ça. Annoncer de quoi de bon, hein?
M'en aller sur la hausse de taxes à Québec qui est sous l'inflation. Elle est à 1,9% en 2026. L'administration Marchand qui s'apprête à annoncer tout ça. Donc, c'est la plus basse hausse de taxes des 5 dernières années. C'est le budget qui sera présenté le 3 décembre prochain. C'était une promesse électorale. Tout porte à croire qu'on va la respecter. Donc, durant la campagne, vous le savez, à l'automne, Bruno Marchand s'était engagé à maintenir la hausse des taxes résidentielles sous l'inflation. Il nous avait dit ici en ondes souvent qu'il allait quand même avoir une hausse, mais selon l'inflation. Donc, vraiment à faible pourcentage. Finalement, ce qu'on apprend, c'est sous l'inflation. 1,9 %, ça respecterait l'engagement, puisque la moyenne calculée par la Direction générale de la Ville avait été établie à 2 %. Alors, 1,9 % au lieu de 2 % sur une période de 12 mois. Entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2025. Et cette hausse-là, ça inclut l'ajustement de tarification pour la gestion de l'eau et les matières résiduelles, des affaires que vous avez besoin chaque jour, sans que ce soit sexy. Mais pour une maison moyenne évaluée, mettons, à 379 000, l'augmentation, c'est 62 % quand on consulte les
62 piastres.
Ouais. 62 $. Tabarouette, pas 62
%. Ben, c'est pas grave, on est vendredi, mais je suis content.
Merci d'avoir été là.
Ouais, je suis content parce que ça veut dire que je vais avoir une petite augmentation de taxes. C'est fun. Non, mais c'est le fun, puis c'est la preuve que quand même, dans les 4 dernières années, moi, je le répète depuis 2 ans, que Bruno Marchand, au niveau du cadre financier de la ville, fait très bien. On rembourse la dette comme il se doit. complètement différent de ce qu'on voit à Lévis. Lévis, c'est le bordel total. On ne sait pas ce qu'on va faire avec le 13,6 millions qui manque. Ça va être les commerces, ça va être les résidents. Qu'est-ce que Stephen Blaney va faire à Lévis? On a vraiment eu des problèmes à instaurer un cadre financier, puis on a eu des problèmes, évidemment, de développement trop rapide.
C'est comme une souffrance économique là, qui est à venir un petit peu au niveau, tu sais, avaler quelque chose de croche pour les gens de Lévis, nos Lévisiens préférés. 127,6 millions de dollars, ça, c'est un contrat qu'on a octroyé pour le troisième lien depuis 2018, si vous pensez.
Ça veut dire qu'il va se faire!
Si vous y pensez qu'il n'était pas travaillé, il l'est. Montant de 43,3 millions de dollars qui a été déboursé pour le paiement des fournisseurs. Alors, directement payer des gens qui fournissent la quantité de matériaux dont on a besoin ou encore de plein, tout ça. Jusqu'à maintenant, le gouvernement Legault a signé des contrats. Et ces contrats-là, c'est ça qui totalise le 127,6 millions de dollars pour ce qu'il va faire, un lien entre Québec et Lévis. Et c'est à la demande du Journal de Québec qu'on a réussi à compiler la plus récente valeur des contrats qui avait été octroyé. On veut connaître la somme, en fait, des contrats signés depuis le lancement du projet, ça veut dire en date de 2018. En date du 31 octobre 2025, c'était 127,6 millions de dollars. C'est ce qu'a offert le porte-parole du ministère, Nicolas Vigneault. On comprend qu'il y a plein de mandats et d'études. On comprend que les plus récents sont de l'ordre de 46,2 millions de dollars pour un contrat majeur d'ingénierie, de 15,2 millions de dollars pour des études géotechniques et de 6 millions pour les services juridiques. Mais auparavant, même si on a eu diverses études, mandats de recherche qui avaient été commandés, parmi les plus coûteux, là, il y a l'élaboration d'une étude d'opportunité.